Active Chorale, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 25e journée de Betclic Elite, la victoire de la chorale de Rouen contre Le Portel sur le score de 84 à 83. Autour de la table pour débriefer ce match, Arnaud Chavalard qui nous vient de la Saône-et-Loire pour encourager la chorale. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et tous qui êtes de l'autre côté de la radio et puis bonsoir à tous ceux qui sont autour de cette table.
Nicolas Bria, partenaire et supporter de la chorale de Rouen. Bonsoir
oui,
Nicolas.
Bonsoir à tous.
Alexandre Combe, number one sur X et sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
Je précise que X n'a rien
d'interdit. Toujours pas.
X Twitter. Et Alex Lamoine, l'américain, qui entre deux séjours aux États-Unis est venu passer au micro de la chorale. Je ne peux pas dire abonné, je peux dire plus grand concouriste du Rouennais. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous. Ça fut du...
Oh, alors, on va pas la refaire pour toi Alex. En fait, il parle plus bien. Il passe tellemment de temps aux États-Unis en ce moment.
Ça,
il était avec Bein Sport dernièrement, All-Star Game NBA. Qui, en fait, c'est un peu...
On ne coupera pas.
C'est un peu de difficulté avec la langue française maintenant, c'est ça?
Non, c'est fut dur ce soir, mais ça fait du bien de gagner.
C'est fut dur d'entamer ce podcast surtout. Allez, les Rouennais qui s'imposent dans ce match de la 25e journée, c'était le match d'après, hein, après le changement d'entraîneur cette semaine. La victoire, elle était impérative, elle était obligatoire. Je vais vous proposer différents qualificatifs. Est-ce que cette victoire, elle est miraculeuse? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est laborieuse? Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas précieuse?
Elle est tout à la fois. Elle est tout à la fois, mais on n'est pas passé très loin de la catastrophe. Je nous revois encore à moins 4 et Cooper qui est ouvert. Ah, s'il ne le met pas, on est quasiment relégué ce soir. Alors, elle est heureuse, elle est miraculeuse, elle est méritée. Ouais. J'ai plutôt envie de dire ça parce que la première mi-temps a été aboutie. Après, il y a eu réajustement du Portel, mais je dirais qu'elle est aboutie et méritée.
Miraculeux, c'est un peu fort quand même, je trouve.
L'adversaire a le droit à moins 4.
Oui. Ah. Ouais, mais on a quand même passé une grande majorité du temps devant.
Alors, effectivement. Il y avait une sorte de dynamique qui fait que la chorale a bien entamé ce match. C'est ça. Petit à petit, on a vu la pression revenir sur elle et Le Portel monter en régime jusqu'à mener de 4 points à 2 minutes de la fin.
Non, mais c'est super parce que cette équipe, elle a été testée. Si tu veux, on peut pas dire on n'a pas dominé tout le match. On n'a pas dominé tout le match. Il y a eu bataille et cette équipe, elle a pu répondre. Et ça, c'est très intéressant.
J'ai eu vraiment peur dans les dernières minutes, mais c'est vrai qu'on a su jouer les coudes et puis on a eu des bonnes possessions à la fin du match, quoi.
Tu parlais de plusieurs qualificatifs. Moi, celui que je retiendrai, c'est précieuse. J'ai presque envie de dire que ce soir, moi, la manière, elle m'importait peu, finalement. Ce que je voulais, j'ai blagué avec Alex, si on avait gagné 1-0 ce soir, j'aurais été heureux. Donc on gagne d'un point, voilà, mais... Je crois qu'avec la semaine qui a été un peu compliquée, que l'équipe a vécu, recevoir une équipe qui actuellement joue pour les playoffs, il ne faut pas l'oublier.
Qui restait sur 4 victoires de rang, qui était 8e au classement. Le Portel, c'est un client. Certes, c'est un petit budget, mais c'est une équipe qui réalise une excellente saison par rapport à ses moyens.
Et puis c'est une équipe qui bataille tout le temps, qui est habituée de batailler, qui gagne en bataillant. Et on a réussi à les battre en bataillant. Et ça, c'est, je le redis, c'est très bien.
Puis il n'y a pas de victoire facile dans ce championnat.
Non, en plus, on a bataillé en perdant la bataille, justement, au rebond. Combien 27 à 42.
42. Mmh. On a été largement dominé.
On a changé un peu la dynamique du match en faisant des interceptions, en faisant d'autres choses que du rebond. Quoi.
Je vais juste, on va dire, boucler ce que j'avais entamé. Donc, il y a deux choses moi, que j'ai envie de retenir ce soir. C'est évidemment la victoire. Et encore une fois, on gagne d'un point. Mais si ça avait été de 3, de 6, de 12, ça importe peu. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est ce premier carton.
Oui, parce que finalement, la chorale perd le deuxième, le troisième et le quatrième.
C'est ça. Elle en perd 3 sur les 4, mais elle gagne quand même le premier 33-14 avec déjà... 33-19, pardon. Avec déjà une attaque quand même qui parle pour
elle était
pour
là, elle-même. La réaction.
Oui, et puis défensivement. On a vu des joueurs qui étaient investis.
Surinvestis peut-être.
Peut-être voilà.
C'est la réaction inconsciente. Ouais. On parle toujours d'électrochoc quand il y a un changement d'entraîneur ou une éviction d'entraîneur, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de changement d'entraîneur, mais la réaction psychologique, le choc psychologique, c'est ce surinvestissement, donner plus qu'à l'accoutumée inconsciemment. On ne peut pas dire que d'habitude, il ne donnait pas. Cette équipe, elle se donnait jusque-là. Elle n'était pas en réussite, elle avait ses défauts. Mais voilà, la réaction psychologique, finalement, elle a duré 10-15 minutes.
Elle a peut-être duré que 10-15 minutes.
Mais ça a suffi.
Puis il y a une stat quand même de 12 interceptions qui, je trouve, témoignent quand même de cet investissement et de cette envie de se jeter sur les balles. Donc moi, c'est le... La stat que je retiendrai.
Et sur les 12 interceptions, 8 en première mi-temps, ouais, 4 en deuxième. Donc ça prouve bien qu'on est rentré dans le match, le couteau entre les dents.
Ouais, de toute façon, le coach en place ce soir a envoyé un message tout de suite. Au bout de 10 minutes, il avait fait jouer tout le monde.
11 joueurs. Et il avait fait rentrer 11 joueurs.
Voilà, donc on a compris qu'il voulait investir tout le monde et il n'avait pas le choix. Là, il reprend les rênes d'une équipe avec une semaine plus qu'agitée. Donc là, il fallait que tout le monde réponde présent. Il l'a fait dès le premier quart, ça a fonctionné. On les a vus tous sur la même longueur au niveau défensif. On a vu un Cooper qui coupait la raquette en courant. Je l'ai vu rarement aussi investi au niveau défensif. Ouais. Ça a fonctionné. Après, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi sur la longueur. On a vu que ça porte ses limites, comme ça portait ses limites avec Jean-Denis. Mais en tout cas, comme l'a dit Nico, ils sont battus jusqu'au bout.
Le différentiel sur la feuille de stats, le 5 de départ a marqué 70 points, le banc en a inscrit 14. Donc, effectivement, même si les temps de jeu ont été un peu plus partagés, on pense à Yanis Morin la semaine dernière qui était à 37 minutes. Alors évidemment, ce soir, Cyril Langevin peut lui donner plus de minutes. Donc Marc Bergeron a pu davantage partager le temps de jeu entre ces deux postes 5. Mais avec un Yanis Morin à moins de 30 minutes, et ben peut-être qu'à une minute de la fin, quand il met le panier pour passer devant à 82-81, ben, il a peut-être un peu plus de lucidité, un peu plus de fraîcheur pour remporter son duel dans la raquette.
Il y a une action, je trouve, qui montre bien qu'on a fait attention à ça. Quand Langevin, je prends sa deuxième ou troisième faute, je crois que c'est la deuxième.
Il lance Narcisse,
qui joue 1 minute 30, qui joue pas plus. Ouais. Mais c'est 1 minute 30 de plus où Morin a pu se reposer. Ouais. Peut-être ça joue.
Et à ce moment-là, notre duo poste 4, poste 5, c'est Théo Pierre-Justin et Narcisse Ngoy. Et je trouve l'image quand même sympathique.
Ouais, il a voulu inscrire tout le monde dans le projet et ça a fonctionné. Et c'est du psychologique tout ça. Hein.
Et encore, DJ Cooper, il sort pas de la deuxième mi-temps. Il joue la totalité de la fin du match. Ouais.
Il fait ses 35 minutes, DJ Cooper. Mais on n'a pas encore cité un nom quand même, le MVP de ce match. C'est Sekou Doumbouya. Quel impact pour son premier match officiel à Vacheresse. Il avait déjà été bon à Strasbourg avec ses 18 points. Ce soir, c'est Sekou Doumbouya, c'est un peu moins de 28 minutes. Il a eu moins de temps de jeu. Il en avait eu 35 à Strasbourg. 29 points à 10 sur 17, 4 rebonds, une interception. C'est quand même un pari. On rappelle, hein, Sekou Doumbouya, c'est un pari. Il n'avait pas joué depuis plus d'un an. Enfin, depuis un an. Et il avait très peu joué la saison dernière. Donc, pari qui est en train d'être réussi.
Il est affamé. Il est complètement affamé de ballon, de jeu, de basket. Ça se voit. Et c'est un petit peu le défaut qu'on peut encore lui reprocher. C'est qu'il a 2, 3 ou 4 actions où il force le jeu, où il a envie d'en faire un peu trop, et tu l'enlèves ces 2-3 déchets, il fait un match quasiment parfait. Il a été bien coaché aussi, il a été sur le banc un moment, il est rentré à la fin pour presque faire la différence.
Il provoque 6 fautes.
Là, il fait un match de mammouth ce soir.
Il fait un match démentiel, je crois qu'il a inscrit 12 points sur les 20 premiers de l'équipe, un truc comme ça. Enfin, il a été monstrueux ce soir.
Puis à 3 points, près du cercle, c'est interception,
il court,
c'est complet quoi. Je te dis, des fois il s'enflamme sur deux, je vois une action de Grady refuse la contre-attaque. Donc le jeu devrait se calmer, là il prend le shoot, il n'y a personne au rebond, bon, il le met, tout le monde se lève, mais il doit encore épurer sur quelques actions un petit peu son jeu offensif, mais parce qu'il a trop faim quoi.
Oui, je crois qu'il met 12 points les 6 premières minutes, ouais.
C'est ça, juste avant qu'il fasse sa première sortie. Là.
Après, on trouvera toujours des choses négatives, il peut
Oui, alors les choses négatives, quand tu fais 29 points, 26 déval, il faut avoir très envie d'en chercher. Toi.
Oui, sur le match de soir, je pense qu'on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit, mais ouais, t'as une raquette qui cumule 50 points, le poste 4 et 5 du 5 de base qui cumule 50 points. Bon,
qui compense les difficultés de la ligne arrière au niveau du shoot extérieur.
Forcément.
Tout n'est pas réglé avec ce match, quand tu gagnes d'un point,
c'est ce qu'on disait en off. Hein,
c'est l'essentiel de gagner, mais effectivement.
Tu fais le même match pour se maintenir, je te dis, ça passera pas. Tu peux pas jouer un match avec un poste 4 énorme et une liaison 1-5 qui est très bonne. Ça ne suffit pas en bête de ce système de jeu. D'ailleurs, ça s'est refermé, la porte s'est refermée sur Morin en deuxième période. Ils sont passés aussi en zone. Enfin, ils ont fait pas mal de choses qui nous ont ennuyés, mais on n'a pas d'alternance dans le jeu. tant que nos shooters ne mettront pas, ça passera pas. Et encore, je vous rappelle que Cooper, ce soir,
4 sur 7.
C'est ouais, presque ouais. Le héros du match.
Ce qui n'est pas habituel pour lui.
Ah ouais, parce que quand on sait qu'il prend un shoot, on a un petit peu peur. Ce n'est pas un vrai shooter.
Il était à 19% à 3 points.
Là, ce soir, il nous sauve. Pour moi, c'est presque le sauveur du match.
Ouais, par contre, à l'exception d'un shoot qui prend un peu casse-croûte parce qu'il restait que quelques secondes, l'intégralité de ses shoots sont des shoots qui justifient.
C'est pas forcément ceux qui, tu sais, qui met d'habitude. Quand il est ouvert, Cooper, c'est pas forcément flush. Et là, c'est combien 4 sur 5
4 sur 7.
7. Ouais, dont un qui était un peu casse-croûte, effectivement.
D'ailleurs, la meilleure éval, c'est pas Sekou Doumbouya, c'est DJ Cooper. 14 points, 11 passes décisives.
5 rebonds.
28 déval.
Il est à 27 déval, précisément, dans la feuille de stats.
Il y en a un autre qui a fait un bon match, qui est bien noté à l'éval. Et qui m'a régalé avec des passes, mais incroyables, c'est
Antoine Diot, j'en étais sûr.
10 passes en moins de 30 minutes.
J'avais ma fille à côté de moi qui n'est pas une grande basketteuse et je lui en parlais. Je lui dis, mais t'as vu les passes qu'il fait? Il regarde à gauche, il met les balles à droite parfaitement, c'est d'un rapide, le timing est bon. Extraordinaire. Non, et vraiment, ça fait plaisir de le voir.
Il provoque le passage en force de Bastien Vautier qui nous fait quand même beaucoup de bien, hein, on va pas se mentir.
À l'expérience.
Qui a été joliment compensé quand même après, parce que la faute de Kadri, moi je suis dans l'axe et je la vois pas vraiment.
Elle est très légère.
Ouais, je pense qu'elle y est. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Mais...
Dio, il est enfin au niveau, on arrive à avoir un capitaine. Allez, on commence à avoir un mec qui tient l'équipe. Et qui passe du temps sur le parquet.
S'il y a un match, on avait besoin d'un.
Il passe 30 minutes.
Antoine Diot, leader, c'est bien ce soir.
Voilà, il passe 30 minutes, il est starter. Il a pris ses responsabilités à la fin sur le 3 points qu'il ne met pas, mais il prend ses responsabilités. Voilà, on aura besoin d'un Antoine.
Et par rapport au début de la saison, il a peut-être aussi un petit peu moins besoin, ou en tout cas, l'équipe a peut-être un peu moins besoin d'un Diot hyper leader. Parce qu'il y a beaucoup de caractère maintenant dans cette équipe. Cooper n'était pas là en début de saison. Doumbouya n'était pas là en début de saison. C'est des mecs qui ont du bagage et, je pense, beaucoup de caractère.
En tout cas, ça compensait un peu le poste 3 complètement à la roue ce soir.
On y passe, ça y est, on y arrive.
On a quand même le cumulé Tucker plus Kadri, moins 9 déval et 0 sur 8 au tiers, c'est ça hein.
Ouais, c'est ça.
On dit que l'adresse, ça va, ça vient. Mais là, effectivement, heureusement que le poste 1, 4, 5, ces joueurs-là ont fait un récital. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'adresse extérieure qui a sauvé la chorale de Rouen ce soir. En tout cas, pas celle de ces shooters attitrés. On espérait une réaction de Kellen Grady qui... toujours ces problèmes. On rappelle qu'en début de semaine, Jean-Denis Choulet travaillait à son remplacement, avec l'aval, évidemment, de la direction, alors qu'Elan Grady est toujours là. Donc, évidemment, on le met sur le terrain. C'est quand même un joueur qui est important dans la masse salariale. Nicolas aime bien le rappeler. Nicolas,
oui,
qui a toujours un œil sur les comptes.
Et qui regarde, côté comptable.
Qui regarde le rapport qualité-prix. Kellen Grady, 14 minutes, 5 points. Alors, c'est pas lui qui fait le match le plus affreux du soir. Hein. Mais évidemment, on attend davantage. Après, il a été aussi peu utilisé. Et Marc Bergeron a davantage mis l'accent sur Antoine Diot. Et puis, c'est Jordan Tucker qui a disparu ce soir des radars. Aucun point marqué, 0 sur 4 au tir, avec un temps de jeu qui s'est bien restreint, évidemment, par la force des choses, par ce qu'il a apporté sur le terrain. Donc, il y a quand même eu une notion de mérite important pour un joueur qui était starter, Jordan Tucker, 0 sur 4 au tir. Et malheureusement, Kadri n'a pas su lui en profiter parce que lui aussi était en déveine, 0 sur 4 également au tir pour Kadri qui a défendu. Hein. Pour le coup, il a fait 4 fautes. Il était sur le terrain à la fin et quand on est sur le terrain
c'est
à la
ce
fin,
que j'allais dire.
C'est que généralement, c'est on a la confiance de son coach pour au moins défendre.
Il était au milieu des 4 tauliers de cette équipe, c'est-à-dire Cooper, Diot, Morin et Doumbouya, et donc c'est quand même symbolique que ce soit Kadri qui termine un match qui se joue à une possession. Donc ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est symbolique quand même.
Et à noter que Grady a été utilisé un temps pour diminuer l'influence de Dileo. Et pareil, il rentre dans cette case, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas flashy, Grady, mais sur le terrain, il apporte autre chose, alors que Tucker, ça a été le fantôme.
Ouais, je dois dire que c'est, à mon avis, ça va être la question à se poser quand même assez rapidement. Peut-être qu'il faut attendre de savoir si on a un nouveau coach, ce qu'il va vouloir faire, mais Tucker, qui passe à une seconde près le même temps que Kadri sur le terrain, qui prend moins de shoot à 3 points de Kadri. Donc je ne sais pas s'il a eu moins de ballons, si c'était moins ouvert, ou si on lui a... Enfin, ça pose question, parce que son boulot, normalement, c'est de...
Oui, après, tu sais, ce que j'allais dire, peut-être que Tucker est impacté aussi par le changement de coach. Hein. Ça peut en libérer certains, ça peut en rendre d'autres plus introvertis. Et c'est vrai que Tucker, c'est plutôt un Américain qui a été choisi par le coach, ou il l'a protégé aussi, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, il a été sifflé à la halle il n'y a pas si longtemps. Là, quand il est sorti, on a entendu quelques sifflets aussi. Hein. C'est très compliqué pour lui.
Oui. Il vit par le scoring et l'adresse extérieure. C'est ça. Donc, quand il ne l'a pas, évidemment, qu'il a beaucoup moins de choses à apporter qu'un Kélan, qu'un Kélan.
C'est la première fois de la saison qu'il passe.
Qui finit capot.
Voilà, comme oui, ça, je crois.
Pense, hein. Ouais. Je pense, ouais.
Et pourtant, les tiers, ils étaient ouverts quand même.
C'est ça.
Kadri ou Tucker, c'était des tiers ouverts, tout seul.
Jordan, ils étaient ouverts.
Ouais. Et malgré tout, il a pénétré qu'une seule fois, je crois. Bon, il s'est pris un double contre encore contrer, directement, etc.
Est-ce que l'adresse, elle peut revenir après cette victoire qui est libératrice en quelque sorte ? Alors la chorale est restée sur deux défaites de rang, elle n'était pas non plus dans une situation cataclysmique, on le rappelle. Il y a eu cette victoire à Blois grâce à Jordan Tucker, notamment sur ce shoot improbable. Cette victoire, elle peut leur faire du bien en vue du prochain et peut-être enlever un chouïa de pression. Et ça, on sait que pour les shooters, ça compte quand même.
C'est qui leur ? Cette victoire, elle peut leur faire du bien.
Je pense aux artilleurs en haut trio, Grady, Tucker, Kadri, qui vivent en grande partie sur cette adresse extérieure.
Vous êtes des connaisseurs de basket et il va pas faire zéro le prochain match. Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Moi, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique dans l'équipe. Bon, on ne sait pas tout ce qui se passe dedans. Et que les prochains matchs vont donner beaucoup d'informations sur la dynamique.
Il y a une dynamique, en tout cas, défensive. Ça, c'est
une dynamique,
évidence.
Et il y a des inconnus.
Non, mais il y a un joueur qui descend un peu moins que les autres.
Qui sera sur le banc vendredi prochain pour la réception de Gravelines, Dunkerque. Et Marc Bergeron a assuré l'intérim. On peut le créditer de cette victoire. Mais, a priori, Emmanuel Brochot a bien annoncé dans la presse qu'il rencontrait d'autres entraîneurs. On cite les noms. Hein, Michael Hay, qui a été débarqué par Blois le mois dernier. Mehdi Marie, ancien espoir ici d'ailleurs, qui a coaché à Limoges. Alors, avec une philosophie de jeu assez éloignée de celle qui était pratiquée ici à Rouen, plus sur la défense. Après, est-ce que la chorale n'a pas besoin justement peut-être de refermer un peu le verrou à ce niveau-là ? On peut imaginer qu'en début de semaine prochaine, il y aura un nouveau coach. Et alors, est-ce que ça va provoquer un nouveau électrochoc ? Est-ce qu'au contraire, il va falloir de l'assimilation ? Est-ce que c'est vraiment le timing est bon avant un match qui va être ultra déterminant dans la lutte pour le maintien ?
Moi, je pense que si les coachs qui sont scoutés ne sont pas chauds immédiatement pour venir à la chorale, on a parlé un peu autour de la table, nouveau coach a une victoire. On a vu des mecs investis.
3 matchs de suite à domicile.
On a des joueurs d'expérience dans l'équipe et le sport de haut niveau, c'est beaucoup de mental. C'est 70% de mental et Nicolas, on est d'accord là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait des Rouennais qui soient choqués qu'on termine en laissant les clés du camion à l'équipe et à des jeunes coachs. Voilà, on a vécu des choses extraordinaires par le passé. On a tous débuté dans la vie par des choses difficiles. Mais là, on a un coach qui a gagné une première victoire. Je vois pas pourquoi la semaine prochaine, on aurait une baguette magique avec un autre coach, alors que la salle a répondu présente, les joueurs ont répondu présent. Le jeu proposé, vous l'avez vu, n'a pas été mauvais. Donc je ne serais pas à changer pour changer rapidement, pas se précipiter en tout cas.
Moi, tu vois, ça me fait mal de le dire, mais je trouve que cette équipe, la situation est très proche de celle de l'OL. C'est-à-dire qu'on a un effectif avec beaucoup de joueurs expérimentés, qui sait à peu près ce qu'il veut faire, peut-être ce qu'il ne veut pas faire aussi. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre un entraîneur très directif sur un groupe comme ça. Je me dis qu'un jeune coach qui va être très participatif, qui est à peine plus vieux de certains de ses joueurs, qui a pas du tout le vécu de certains de ses joueurs, peut-être que c'est aussi en mettant en avant des joueurs comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose.
Et le côté il va avoir 47 ans cette année, Marc Bergeron, c'est pas. Oh,
pardon, excuse-moi, j'avais pas tous les détails. Excusez-moi. Mais je me dis que des joueurs comme Dio, comme Cooper, même Doumbouya, en soi, ils ont vu d'autres choses. Et
je suis complètement d'accord. Ouais. S'il restait beaucoup de matchs, mais il en reste une dizaine.
Ce soir, 11 matchs.
Franchement, je me pose des questions. Je me dis effectivement.
Jurisprudence Pierre Sage.
Ouais, moi, je rejoindrais un peu mes camarades. Disons que je trouve que ce soir, ça a été une réussite, voilà, tout simplement. De gagner ce match-là, pour moi, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais on a reçu une équipe qui joue actuellement les playoffs.
Qui est homogène.
Un adversaire qui est vraiment coriace.
Les évaluations, elles sont toutes
au-dessus. C'était le parfait match piège, entre guillemets, dans cette situation.
Dans cette situation-là, on s'en est sorti. Après, évidemment, il y a d'autres matchs qui vont venir contre des adversaires plus robustes, contre qui on perdra certainement.
Quelque part, il va aller jouer ce soir le Portel que Gravelines-Dunkerque, parce que Gravelines-Dunkerque, il va falloir y arriver.
Et même, que Boulogne. Hein. Je pense que si on avait joué Boulogne ce soir, c'était pas forcément l'adversaire idéal dans cette situation. Mais ma foi, le coach en place a fait son travail ce soir. Alors peut-être pas trop se précipiter, peut-être.
Le seul petit bémol que j'aurais, c'est de dire qu'on est arrivé et que, entre guillemets, tout le scouting du portail, il a peut-être servi à rien. Parce que on a sorti des nouvelles choses, des annonces du système, peut-être des systèmes, des choses comme ça. Et on a peut-être, si on fait 3-19 au premier quart et qu'on a du mal sur le reste, c'est aussi peut-être l'effet nouveauté qui a aidé un petit peu.
J'ai pas vu beaucoup de nouveautés dans le jeu, l'axe
c'est
1-5, les pics. Sur l'offensive.
Mais il suffit parfois de pas grand-chose pour que les trois premières minutes, ils aient pas les repères aussi précis que ce qu'ils pouvaient avoir avant.
Ouais, mais. Moi, j'ai vu surtout le.
La nouveauté sera surtout face à Gravelines-Dunkerque.
On a pris 83 points, 19 dans le premier quart. Les attitudes défensives ont été, par contre, plus.
Et c'est, la salle a suivi les attitudes défensives.
Aussi. Ça se voyait quand même quand en défense on était.
Le premier quart, c'est flagrant. Vraiment, le début du match, c'est flagrant.
Flagrant.
Ah oui, c'est flagrant.
Le portail était diminué, ils n'avaient pas leur meneur titulaire,
le Finlandais.
Max Uni. Ouais. Donc à voir. Bon, on a déjà fait une première marche.
C'est
ce
ça.
Soir, maintenant, c'est la deuxième marche contre Gravelines. Avec quel effectif, Gravelines ? C'est ça la question.
Alors, la décision du CNOSF qui était annoncée pour le jeudi 7 mars n'est toujours pas tombée. Donc ça va être suspense jusqu'au bout. Est-ce que le CNOSF va se retirer un peu de l'histoire et dire faites votre match dans les conditions normales de ce match ? Le comité sanitaire qui était à l'époque apte à juger que le match devait être reporté. Ou alors, ils vont prendre la décision de dire tel joueur... Chris Babb et Johnny Baran-Mesquel qui étaient blessés pour ce match ne doivent pas jouer la rencontre. Ils ont pris une décision séminaire en Ligue féminine.
Mais je crois que le CNOSF n'a aucun avis directif. C'est seulement du consultatif, le CNOSF. Et à partir de là, moi je suis très surpris qu'il y ait une date de match alors qu'on n'a pas de réponse comme ça et qu'il y a encore des...
Sous réserve de modification. Là. C'est, la date, c'est bien précisé, sous réserve de modification.
Parce qu'il y a
après,
quand
y a
même
plus
encore des...
Il y a plus de recours.
Il y a le tribunal administratif du sport quand même.
Il n'est pas possible que ce match ne se joue pas.
Le TAS, le fameux TAS.
Le TAS. Moi, je suis un très bon avocat s'ils veulent aller au TAS.
Ouais, mais moi, je pense qu'on va aller à un match où tous les effectifs en présence aptes vont jouer et qu'on aura perdu 2 mois ou gagné 2 mois, j'en sais rien.
Je serai dirigeant de la Corale, ce qui n'est pas le cas. J'attendrai 2 jours avant, je ne sais pas les dates pour ouvrir une procédure au TAS, mais j'attendrai quand même de voir ce qui se passe et je me garderai tout à fait la possibilité de le faire.
Ah, il faut aller au bout. Là, ça a duré tellement longtemps, tellement de recours ont été faits qu'il faut aller au bout de la procédure, puis, c'est évident.
Excuse-moi, c'est tellement grotesque et on voit tellement les juridictions sportives des fédérations qui sont totalement dépassées. C'est pas faute de dire depuis longtemps, au moins entre nous, que la NNB est une farce terrible. Le TAS est plus extérieur à ça et ce serait peut-être intéressant d'avoir leur avis.
Après, vous parlez de quel effectif, mais j'ai envie de poser la question, quel effectif de notre côté ? Parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là le 26 décembre. 23 décembre, pardon. Donc on fait quoi ? Considère que les joueurs qui étaient blessés n'avaient pas joué, mais les joueurs qui n'étaient pas sous contrat...
La règle, c'est que si un joueur a joué la même journée dans une autre équipe...
Aucun
joueur qui est actuellement dans l'effectif n'a joué la 17e journée avec une autre équipe.
On est d'accord.
Il n'y a pas de problème du côté de la Chorale de Rouen, le seul... problème entre guillemets, la problématique c'est les joueurs qui étaient absents pour blessure ce jour-là qui éventuellement pourraient les inviter jouer ce match. Une décision dans ce sens avait été prise par la FFBB pour les matchs, un match féminin entre Tarbes et Charleville-Mézières spécialiste du basket féminin.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la FFBB ne l'a pas dit dans notre cas?
Mais la FFBB n'est pas compétente pour ce.
Il a pris sa décision pour la Ligue féminine.
Oui, parce que la Ligue féminine dépend de la FFBB, mais la Betclic Elite dépend de la LNB.
Pas en appel, je crois bien que l'appel était devant une chambre de la FFBB.
De la FFBB, parce que je ne vois pas ce qu'elle a à voir là-dedans, la FFBB. Bon. Après, il y a sans doute des choses que j'ignore, mais il y a bien un distinguo entre FFBB et LNB.
On va mettre les équipes juridiques là-dessus.
Oui, c'est ça.
Exactement. Bon, on ne peut pas terminer ce podcast sans évoquer évidemment le séisme de cette semaine à Rouen, la décision du club d'évincer Jean-Denis Choulet de la tête de la Chorale de Rouen. Ça a provoqué énormément de réactions sur les réseaux sociaux, évidemment. J'ai envie de dire, on va pas débattre de cette décision. La décision, elle a été prise par le président Emmanuel Brochot, qui l'a justifiée dans la presse cette semaine. Je pense que les supporters rouennais ont suivi cette actualité de très très près dans la presse locale tout au long de la semaine. Moi, ce que je peux dire, et ce qu'on peut dire, tous les supporters rouennais, c'est merci à Jean-Denis Choulet pour toutes les émotions et les souvenirs qu'il nous a offerts durant ces 15 années à Rouen entre 2000 et 2011 et depuis son retour entre 2020 et donc 2024. On a tous évidemment des souvenirs, des grands souvenirs de cette époque. Alors surtout sur le premier passage avec le doublé évidemment de 2007. On peut le remercier pour le spectacle qu'il nous a offert. La chorale de Rouen, c'était l'équipe peut-être la plus spectaculaire de Pro A, et puis de JP Elite, Betclic Elite sur son passage avec des matchs à beaucoup de points. Évidemment, la chorale de Rouen, c'est régulièrement la meilleure attaque et la défense la plus perméable. Donc on a eu beaucoup de spectacles. On a eu des joueurs. On connaît sa réputation de dénicheur de talent et il nous a amené ici des joueurs formidables à regarder. On peut en citer des dizaines, notamment des joueurs américains. On connaît son rapport aux joueurs américains, Dee Spencer, Aaron Harper. D'ailleurs, on avait consacré ensemble un podcast suite à sa disparition. Et on en a plein encore, Ronald March et Moody dernièrement, hein, qui nous ont souvent enflammés. Les Alley-Oop, malheureusement, on en a moins vu cette saison des Alley-Oop. En tout cas, on a eu beaucoup de spectacles à Vacheresse. Et ça, on le doit à sa philosophie de jeu. Et puis on peut le remercier également pour une troisième chose, c'est son investissement réel. D'ailleurs, il a beaucoup insisté dessus cette semaine lorsqu'il s'est exprimé dans la presse, cet investissement qu'il a eu ici au club, le travail qu'il a abattu pour replacer la chorale de Rouen sur la carte du basket français, on va dire. Sur les 20 dernières années, la chorale de Rouen, elle est associée à l'image de Jean-Denis Choulet. Par contre, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux un peu excessives, et je pense que Jean-Denis Choulet lui-même l'admettra. Un visuel qui reprend Je suis Charlie, ouais, transformé en Je suis Choulet, on ne peut pas accepter, on ne peut pas faire de tels parallèles. Il s'agit là de sport, il s'agit là d'une décision de chef d'entreprise avec un salarié. Il n'y a pas lieu de faire un tel parallèle. Et puis, mon autre coup de gueule, c'est le déferlement contre le président Emmanuel Brochu, qui a pris une décision en tant que président. Il assume une responsabilité qui est celle d'être président du club. Il y met de ses moyens personnels. La chorale de 2007, championne de France, c'est la chorale de Jean-Denis Choulet et d'Emmanuel Brochu. La chorale n'aurait sans doute pas été championne de France et n'aura pas vécu toutes ces années de succès sans ce président Emmanuel Brochu, qui est revenu en 2020, qu'il a encore dit cette semaine dans la presse, qui met évidemment des moyens financiers dans le club pour lui permettre d'attirer des joueurs qui peut-être vont nous guider vers le maintien. Je pense par exemple à DJ Cooper. Sa décision est respectable, il l'a pris avec sans doute des bonnes raisons. En tout cas, il assume sa responsabilité, Emmanuel Brochu. On ne peut pas accepter un tel déferlement, on ne peut pas avoir si peu de reconnaissance pour un homme qui a tant donné pour ce club. Alors en coulisses, évidemment, il n'est pas au bord du terrain, Emmanuel Brochu, c'est du travail de l'ombre, mais c'est lui qui fédère également les partenaires derrière la chorale de Rouen. Et moi, je ne peux pas accepter que Emmanuel Brochu soit critiqué de la sorte. Alors, il y a une réaction épidermique sans doute chez certains supporters, il y a un fort attachement à la personne de Jean-Denis Choulet, mais on ne peut pas brûler comme ça en place publique Emmanuel Brochu, sans qui la chorale de Rouen ne serait sans doute pas où elle est aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Vous voulez peut-être vous tourner plutôt vers l'avenir.
Oui, non, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on est dans du sport de haut niveau, et le sport de haut niveau, pardon, c'est cruel. Et que voilà, c'est la vie d'un coach. Alors, les décisions sont difficiles à prendre, elles sont dures à encaisser, mais c'est la vie de tous les coachs du monde entier. Et dans la vie, il y a des choses qui sont pires que ça. Voilà, Jean-Denis restera à jamais, je l'ai dit il y a un mois et demi, je ne sais pas s'il l'a entendu, là je le redis, une icône du sport rouennais, je le pense sincèrement. Et voilà, donc c'est la vie du coach rouennais qui s'arrête à Rouen.
On peut tous regretter que l'histoire se termine comme ça.
C'est ça, c'est la fin qui est moche. Mais encore une fois, c'est la vie de tous les coachs du monde entier. C'est juste la forme qui est un petit peu difficilement compréhensible par certaines personnes. Après, on n'est pas assez proche du club pour juger complètement, parce que chacun a sa part de vérité là, dans ces histoires.
Oui, regarde, à Blois, ils ont pris une décision il y a 3 semaines. Tout le monde était déçu du départ de Michael. Mais bon, après,
C'est dans une saison, dans une saison à trois relégations, les cinq équipes aux cinq dernières places ont toutes pris la décision à un moment, et la Chorale de Rouen est la dernière de ces cinq équipes à avoir pris la décision d'appuyer sur le bouton le levier du changement d'entraîneur, hein, qui, on le sait, c'est cruel pour les coachs, parce qu'ils se disent pourquoi avec moi ils gagnaient pas, et peut-être que sous l'effet psychologique du changement ils vont gagner. C'est le sport de haut niveau, tous ces joueurs sont très proches en termes de niveau, et ça se joue parfois sur des petits effets psychologiques. La Chorale de Rouen a fait ce choix. On espère que ça va permettre évidemment de l'amener au maintien, parce que c'est ce qu'on souhaite tous.
Oui, parce qu'il faut rappeler à tous les gens à qui tu t'adressais à propos de réactions malvenues, on va dire, sur les réseaux sociaux, qu'on est la Chorale de Rouen et que l'important d'abord, c'est le club. Il faut que tout le monde s'en souvienne. Je pense que les gens qui ne se sont pas levés dans la dernière minute, eh ben, faut pas qu'ils reviennent.
Ouais, voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors, évidemment, je partage tout ce que vous venez de dire, donc je ne vais pas les répéter. J'ai juste envie de dire que tu parlais des années dont on se souviendrait. Et en fait, moi, le souvenir que j'ai, c'est la première fois que je suis venu voir la Chorale version Choulet, que j'ai découvert des Scott Forbes, des Jim Albaul.
Boban Savovic.
Alors, Boban Savovic, la saison d'après, effectivement. Ouais. Et en fait, moi, c'est... plus, en fait, cette période-là qui m'a le plus marqué, parce qu'on sortait de saisons de vaches maigres, où on avait même failli disparaître ou presque.
La vacheresse était vidée.
Était vidée, complètement vidée. Et moi, j'ai vu ces deux avions de chasse débarquer ici. Je me suis dit, mais qui c'est ces deux mecs-là? Un mec qui avait des mollets, qui était tout fin, qui jumpait comme j'avais jamais vu. Et donc, c'est surtout, moi, c'est ce souvenir-là que je garderai, parce que ça a réenclenché une dynamique dans un club qui était vraiment moribond. Et ensuite, pour... tout le reste que vous avez dit, je partage entièrement votre avis. La Chorale, c'est ça qui nous anime. Il y a eu la Chorale de Tinet, il y a eu la Chorale d'autres coachs, il y a eu la Chorale de... Exactement, et donc maintenant, regardons devant nous, effectivement.
Merci messieurs, voilà pour ce qu'on avait à dire sur ce sujet. Maintenant, on espère que la Chorale de Rouen enchaînera. Vendredi 15 mars à 20h, la Chorale de Rouen affrontera le BCM Gravelines-Dunkerque, sauf nouvelle péripétie dans les reports de ce match de la 17e journée. À très bientôt, ce sera à vivre évidemment sur Active Radio et le débrief à suivre dans Active Chorale, le podcast. Merci messieurs.
Bonsoir. Bonne soirée.
Active Chorale, le podcast.